si gira, silenzio.
Camera.
Motore.
Motore. Partito.
Check. Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Les podcasts de la Cinémathèque.
On n'a pas pu toujours faire ça avec l'argent qu'on voulait, on n'a pas pu avoir les décors qu'on voulait, on n'a pas pu avoir les budgets qu'on voulait, donc c'est une performance sportive.
De la fin des années 50 à celle des années 2010, Jean-Pierre Mocky n'aura eu de cesse de réaliser des films, une soixantaine de longs-métrages et une quarantaine d'épisodes de séries pour la télévision. Il est également acteur, scénariste, producteur. C'est un véritable artisan, modeste et impétueux. Il se définit lui-même comme un camelot, qui refuse de faire du cinéma comme il faut pour plaire, et préfère créer celui qui lui semble nécessaire. Ce qui de facto fait de lui un cinéaste en marge. Ses films sont donc réalisés pour une poignée de sous, et compensent le manque de moyens par une énergie débordante de créativité. Sur les tournages, il improvise régulièrement, il rencontre de vrais succès populaires dans les années 60, 70 et jusqu'à la fin des années 80, quand d'autres œuvres plus tardives sont très peu vues. Frondeur, satiriste, anarchiste, que ce soit par le biais de la comédie, du polar, du drame, voire même du fantastique, il passe au crible l'ensemble de la société. La corruption au cœur des institutions est un thème récurrent de son cinéma, où la bouffonnerie paillarde rencontre la tragédie de l'existence. Tel un moraliste qui ne fait jamais la morale, il moque le pouvoir, s'attarde et se place du côté des laissés-pour-compte à coups de provocation et d'humour vache. Peu de cinéastes filment autant de marginaux pour en faire les personnages principaux de ses films. Pêle-mêle, il s'attaque à la politique, la religion, la police, la justice, la télévision, les notables, les élites industrielles, entre autres. Il trouve des soutiens du côté de cinéastes comme Truffaut et Godard, et chez les critiques, Serge Danet, Jean-Louis Borry ou encore Olivier Assayas. Quand d'autres se désespèrent de ce cinéma en liberté qui ne rentre dans aucune case. Devenu figure médiatique sur le tard, ce fabulateur réinvente sa vie en permanence, à tel point qu'il est difficile pour un biographe de trier le vrai du faux. Éric Leroy s'est attelé avec minutie à la reconstitution de son œuvre, dans sa globalité, tout en s'attachant à restituer, avec le plus de minutie possible, sa vie, dans un ouvrage paru aux éditions Rouge Profond. Éric Leroy, vous êtes chef des archives au CNC et historien de cinéma. On vous reçoit aujourd'hui pour la parution de l'ouvrage sur Jean-Pierre Mocky, parution la plus fouillée, la plus complète sur l'œuvre de ce cinéaste singulier. Vous avez été proche de Mocky et son assistant ?
Oui, j'ai été son assistant de 1982-1986. J'étais assistant de production et assistant pour tout. J'étais pas assistant réalisateur. Donc je travaillais dans les bureaux avec lui, j'étais assez très proche et j'ai beaucoup travaillé sur ses archives. Gérer l'ensemble de sa collection. Il était extrêmement sensible au fait de tout garder, que ce soit d'ailleurs des copies de films, anciennes copies, mais aussi toutes ses archives personnelles et professionnelles. Et il y avait un vrai mélange, et c'est ce que j'essaye de dire dans le livre, entre vie privée et vie professionnelle qui a toujours existé. Et donc ce travail que j'ai pu faire avec lui et le fait d'avoir été assez proche de lui jusqu'à la fin de sa vie, ça a beaucoup contribué à ma décision de faire ce livre. J'ai donné les archives qui m'appartenaient quand j'étais assistant. Ensuite, j'ai contribué au fait que les enfants de Jean-Pierre Mocky, Olivia Mokijewski et Stanislas Norday donnent les archives de la société Jean-Pierre Mocky, Mocky Delicious Products, à la Cinémathèque.
Quel rapport vous entretenez avec l'œuvre de Mocky ? Comment l'avez-vous découvert ? Et qu'est-ce que son cinéma signifie pour vous ?
Alors, c'est très personnel, hein. J'étais au lycée et je m'occupais d'un ciné-club. J'étais assez jeune, je devais avoir 15-16 ans. Je ne connaissais de Mocky que les comédies, un drôle de paroissien, Compagnon de la Marguerite. Et j'ai programmé mon lycée solo. Et ça a été un vrai choc parce que j'ai trouvé que ce film avait une forme très étonnante, m'a bouleversé.
On a décidé de tout faire péter, de tout casser.
Voilà un bel objectif et qui ne manque pas d'ambition.
Et où voulez-vous en venir exactement?
Supprimer tout ce qui sent l'argent, tout ce qui est pourri, corrompu. Il n'y a que les jeunes pour purifier le monde.
Et vous pensez parvenir à ce noble objectif en bousillant quelques gros plats de soupe?
Je me suis penché sur ce personnage que à l'époque, hein, on est en 1979. Hein. Je me suis dit, c'est pas possible quand même. Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est pas possible de faire des films pareils, quoi. En plus, passer de un drôle de paroissien à Solo, qui est un film d'une modernité incroyable, quand même, très, très faite dans l'urgence, en couleur, violente, avec beaucoup de poésie. Ça m'a beaucoup touché. Et c'est tout de suite un cinéma qui me parlait. Donc je me suis dit, ce mec, il faut que je le rencontre, il faut que je le voie un jour. Quand je suis arrivé à Paris, parce que j'étais en province, je faisais des études de bâtiment, hein, j'étais maîtreur géomètre. Quand je suis arrivé à Paris pour faire des études de cinéma, je suis tout de suite allé le voir. Et ça a été immédiatement une rencontre explosive et amicale et chaleureuse, un mélange de choses. Parce qu'à l'époque, on pouvait joindre les gens par téléphone directement, ils étaient dans l'annuaire. Et donc, il m'a tout de suite dit, mais ça ne sert à rien les études de cinéma. Faut travailler dans le cinéma, ça ne sert strictement à rien. Le cinéma, c'est la vie, c'est pas l'université. J'ai pris la décision de tenter ma chance avec lui, et donc ça a été plusieurs années de grand bonheur et de découverte aussi de la fabrique Mocky, de l'intérieur. Donc de voir comment vivait Mocky. Puis en même temps, il y avait toute cette troupe autour de lui, de comédiens, de techniciens, de personnages très curieux. Le travail dans mon livre, ça a été justement d'essayer de creuser cet ensemble d'inventions, de légendes, de fictions qu'il a constitué lui-même, qu'il a inventé, qu'il a transformé. Il s'est emmêlé les pinceaux à plusieurs reprises, la date de naissance notamment. Son père était catholique polonais, sa mère également. Il vient quand même d'un milieu qui était aristocratique et qui a été ruiné. Donc ce qui est très étonnant par rapport à son parcours, c'est qu'il est le fils de parents déjà âgés. Il est né à Nice en 1929. Ses parents sont ruinés. En tous les cas, ils n'ont plus grand-chose. Le père, Adam Mokiewski, lui, continue de ruiner le peu d'argent qu'il y a dans la famille, dans les cellules familiales. Et les parents se retrouvent gardiens dans un château. Ce qui est étonnant, c'est cette précocité. Il était très, 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 très jeune. Il est cinéphile, il s'intéresse au théâtre. Il est très original, curieux, il lit beaucoup, il est solitaire. C'est ce qui va l'amener à ce parcours particulier. Quitte après assez tôt, d'ailleurs, la région niçoise pour aller à Paris, faire des études de droit, des études. Il change plusieurs fois. En fait, ce qui l'intéresse, c'est faire du théâtre. Donc, il commence par le théâtre. Et c'est là qu'il rencontre sa première femme. En tous les cas, il a fait quelques pièces sous le nom de Jean-Paul Motti. Au moment où il se prétend assistant de Fellini sur la Strada, il suffit de regarder les dates de tournage en Italie. Et au même moment, il est en France et il est en Bretagne. Il tourne un film de Delannoy. Donc, il faut comparer, croiser les sources. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a un mélange des deux. C'est ce qui est passionnant.
Par ailleurs, il est bien dirigé par Antonioni.
Tout à fait. Dans les archives que j'ai trouvées, je le relate un peu dans mon livre, ce qui est hallucinant. C'est un personnage absolument incroyable. Il est sorti d'on ne sait où. Il veut vraiment, absolument réussir, percer, et s'acharne à s'incruster. Il fait de l'incruste. Donc il fait énormément. Alors en France déjà, il fait beaucoup d'apparitions, de tout petits rôles, de silhouettes, où il ne parle pas, d'autres il parle. Et en Italie, là, il fait quelques apparitions et il a deux ou trois rôles, notamment avec Antonioni, en effet.
Extrêmement déterminé, il veut faire du cinéma par tous les moyens. Et il y a quelque chose qui va le mettre en selle, c'est le projet de La tête contre les murs.
Votre mère, vous n'en parlez pas.
Elle est morte.
Morte de quoi?
Noyée.
Oui, un accident.
Je sortirai d'ici, je n'ai rien à faire dans un asile de fous.
Hôpital psychiatrique. Du caractère et du comportement à observer.
la tête contre les murs, il y tient vraiment, parce que c'est pour lui le moyen d'avoir un rôle à la hauteur de ses ambitions et de son talent. Il est insatisfait des rôles qu'on lui offre en tant que comédien, donc il achète les droits du roman à Bazin, il en fait l'adaptation. Bien sûr, il espère pouvoir interpréter le rôle principal, mais aussi le réaliser. Il s'engage, on s'engage vers ça. Ça, tout est vrai aussi, puisque ça, pour le coup, j'ai dépouillé toute la presse, j'ai retrouvé des dossiers, etc. Mais il arrive un moment où on est en 58, il n'a pas 30 ans, il fait pas encore partie du groupe de la Nouvelle Vague. Hein. C'est très intéressant, ce moment-là. Et finalement, son producteur lui dit non, faut trouver quelqu'un d'autre. Alors bon, on parle de Truffaut, même à un moment, on parle de René, et finalement c'est Franju. Mais quand on regarde le film, je sais que le film passe souvent sous l'étiquette Franju, bien entendu, il est au générique. Il y a quand même du Mocky dans le film. L'adaptation est de lui, il a l'interprétation, le rôle principal, et il y a quand même des éléments qu'on retrouve de Mocky. Aussi jusqu'au montage, puisqu'il était très présent, même pressant auprès de la monteuse Suzanne Sandberg pour modifier le montage et accentuer sa présence.
Mais il se dit qu'il aurait aussi réalisé quelques séquences. Est-ce que
oui, ça, c'est quelque chose... oui, ça se dit, en effet. Mais il n'y a pas vraiment de preuves, mais ce n'est pas impossible d'après ce que m'avait dit Suzanne Sandberg, la monteuse.
Il va ensuite réaliser son premier véritable long métrage,
Les Dragueurs.
Il a avec lui des techniciens d'avant la Nouvelle Vague, mais il a aussi une sensibilité qui pourrait tirer vers une forme de réalisme.
Ça nous amène à ses racines cinématographiques, lui, parce que ce qui est intéressant aussi chez les cinéastes, ce qui nous intéresse, nous, dans l'histoire du cinéma et l'analyse esthétique du cinéma, c'est un peu la généalogie du cinéma, d'où les cinéastes vont puiser leurs créations et leurs références, parfois. Ils sont très curieux, parce qu'à la fois, c'est un grand cinéphile, du cinéma français traditionnel de comédie des années 30, 40, 50. C'est aussi un très grand amateur du film noir américain, du western. Il n'a pas, en effet, fait d'études. Alors, il n'est pas critique de cinéma comme groupe des cahiers. Il n'a jamais écrit une seule ligne sur le cinéma qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Il n'a pas fait l'IDEC. Donc, il est complètement hors circuit. Il est comédien. C'est quand même une particularité. Mais il a ce désir de faire du cinéma. Il s'inscrit quand même dans le courant Nouvelle Vague. Et en même temps, il essaye de faire un autre cinéma. Et d'ailleurs, sur le tournage, il y a Godard qui vient l'aider même pour une scène. Il y a Truffaut qui vient. Et je crois qu'il veut s'inscrire dans un courant du cinéma de cette nouvelle génération qui veut apporter autre chose. Il est mal à l'aise, je crois, parce que il veut à la fois, il aime le cinéma d'avant, que n'aimait pas Truffaut, Godard, c'est ça qui est curieux. Et d'un autre côté, il se sent mal à l'aise pour faire le même cinéma et il veut faire autre chose. Donc c'est un ensemble d'éléments qui font que ce film est un film entre deux. À la fois, on le voit bien qu'il y a quand même une maîtrise au niveau de l'image, des mouvements de caméra, etc. Et puis en même temps, il essaye de capter le réel, de laisser jouer les acteurs, de tourner dans la rue, la nuit, dans les bars, dans les voitures, chez les gens. Il y a quand même déjà quelque chose, il y a quelque chose de la Nouvelle Vague.
Vous n'avez pas fini de me suivre comme ça, non? Vous vous êtes pas regardé?
Alors, Andrague?
En quoi?
On cherche une fille.
Je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Elles sont dures ce soir.
Oh, si t'es pas vaincu d'avance, tu n'arriveras jamais à rien. Quand on drague, on réfléchit pas ou on fonce?
Je fonce. Elle m'arrête tout de suite.
Ah, t'as pas l'habitude.
Oh si, je cherche depuis 6 mois tous les samedis.
Donc ce film est plutôt remarqué à sa sortie.
Ah oui, tout à fait.
Les cahiers vont le défendre. Vous avez cité Truffaut qui écrira une très belle lettre... à Mocky, sur son cinéma, et même Godard, avec qui il va entretenir. Alors, une espèce, je ne sais pas, ce n'est pas de la rivalité, mais une amitié un peu contradictoires, comme s'ils se cherchaient, ils se chassaient en même temps l'un l'autre.
Ça va durer toute une vie.
Oui, c'est ça.
Je trouve que c'est une belle histoire, hein, d'ailleurs, de cinéma, qui va curieusement se nourrir beaucoup plus tard, puisque au milieu des années 80, quand moi j'étais d'ailleurs assistant, Jean-Pierre a joué dans Prénom Carmen, où il joue son propre rôle. Il est dans un asile d'aliénés. Et Godard le met, il hurle, il y a une infirmière qui lui dit Monsieur Mocky, calmez-vous. Il hurle, y a-t-il un Français dans la salle? Il interprète le rôle de Jean Almereda, qui est le vrai nom de Jean Vigo, dans Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma de Godard. Et Godard devait jouer dans deux ou trois films de Mocky, ce qu'il n'a jamais fait. Mais à ce moment-là, il se voit assez souvent. La presse s'en charge, hein, les cahiers, il y a l'autre journal aussi, Libération. On parle de cette porosité un peu entre les deux personnages, Mocky, Godard. Et d'ailleurs, je trouve dans le film de Godard, Grandeur et décadence, il y a une très belle scène où ils sont dans la voiture, tous les deux, où ils parlent de cinéma. Et je crois que c'est ça résume bien leur attitude vis-à-vis du cinéma.
Tout va en arrière, la mode, la politique, tout ça. Alors, cinéma aussi. Paris, il y a longtemps que je ne suis pas venu, c'est sale. On dirait que les gens ne se lavent pas les idées. Cinéma aussi va en arrière, comme elle est d'autrefois, alors votre femme a peut-être une chance. Chacun sa liberté, après tout. Mais il faut tomber juste, hein. C'est pas une question de temps, ni d'époque, c'est une question de tempo.
Oui, la liberté. Juste un autre mot pour dire qu'on n'a plus rien à perdre. Allez, on y va.
Jean-Luc Godard va aller vers l'expérimental quand même, hein, toute la fin de sa carrière, travailler en solitaire, et Mocky dans un tout autre genre aussi. Il va devenir underground, ça va devenir vraiment un cinéma complètement en dehors du système, en vase clos. La grande différence, c'est qu'il tourne avec des comédiens, des films de fiction. Il y a quand même une sorte de retrait de la société, enfin du monde du cinéma. Mais l'un comme l'autre, jusqu'au bout, vont tourner. Mocky a tourné jusqu'à 3 mois avant de mourir, ce qui est extraordinaire, et Godard aussi. Donc c'est deux parcours qui ont quelque chose de à la fois commun et qui se nourrit en fait, hein, d'une histoire du cinéma.
Pour continuer sur les années 60, quelle va être la trajectoire de Mocky? Donc vous le dites, il va tourner beaucoup, il va développer des films après films, hein, des méthodes qui lui sont très particulières et aussi des thématiques.
On est essentiellement dans les années 60 jusqu'à l'arrivée de Solo. On est quand même dans la satire, la comédie. Il y a une particularité aussi, parce que j'ai découpé le livre par relation amoureuse. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on regarde la structure de la carrière de Jean-Pierre Mocky, on voit à quel point, en tous les cas, c'est vrai pendant plusieurs périodes, la place des femmes a été très importante, voire pour Véronique Nordet, incontournable et même essentielle. Elle a beaucoup contribué. Alors ça m'a été, en plus, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Il y a les sources. Parce que je reste aussi un passionné d'archives et quand on retrouve toutes les sources, les lettres, les notes, on construit quelque chose. Mais il y a aussi des témoignages. Quand j'ai Jean Douchet ou Mardor qui m'ont témoigné de l'importance de Véronique Nordet dans le processus de fabrication des films, sa présence incontournable pour un peu cadrer les choses, c'est intéressant. Ça nourrit un peu tout ce parcours. Et cette période-là, elle est nourrie par tout un amour des comédiens et des sujets qui touchent la société, que ce soit l'argent, que ce soit la religion, la sexualité. Enfin, il y a le fantastique aussi, la comédie. Donc il aborde tout un tas de sujets que l'on retrouve d'ailleurs de film en film. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve aussi des éléments dans certains de ses films, si on voit La Cité de l'Indicible Peur, que moi j'adore particulièrement, qui est un film fantastique, qui est censé être un film fantastique, mais bon, qui quand même aussi se passe dans le réel. Il y a un mélange, une sorte de mélange de genres, qui est assez incroyable, parce qu'il y a, de l'humour, il y a de la satire, il y a critique politique, sexuelle, il y a un goût des acteurs, enfin, c'est un ensemble de choses.
La villa des cyprès, je vous prie.
Métec, la barjasque va te manger.
La quoi?
La bête.
Quelle bête, je vous prie?
Les bêtes.
Une bête? Qui va me manger?
Et puis, il y a un autre film comme les Compagnons de la Marguerite, qui est une satire du mariage. On retrouve aussi des éléments un peu fantastiques. Il y a constamment un univers qui apparaît dans son cinéma, quel que soit le genre traité, en fait. Il y a un style Mocky qui s'applique, parce que je pense que c'était de toute façon quelqu'un qui était incapable de faire un film normal. Parce que son film le plus normal serait Agent Trouble, et puis quand on le regarde, il n'est pas si normal que ça. Donc je pense que c'est quelqu'un... Moi, je l'ai vu à l'œuvre montage, notamment... C'est tout faire pour pas que la scène soit normale. C'est qu'il y a une monteuse qui monte une scène normalement, il va arriver, il va déstructurer pour justement casser cette écriture. C'est comme si quelqu'un écrivait un texte normal et s'amusait à rayer et à faire des ruptures. Je le compare un moment dans mon livre au cinéma, à l'art brut, parce qu'il y a quelque chose chez lui qui fait que de l'ordre de la rupture, du refus du bienfait. Quand on regarde toute sa carrière, quasiment toute sa carrière, il a été lui-même son propre producteur. Ou alors il est en coproduction. Quand il est producteur, qu'il est maître de son jouet, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Là où c'est intéressant, c'est quand il se retrouve avec un producteur qui essaye de contrôler un peu tout ça. Je reviens à Jean Trouble. Maurice Bernard, le producteur, me racontait à quel point ça a été assez difficile d'obtenir d'abord un scénario clair et net, un vrai scénario digne de ce nom de la part de Mocky. Il a été obligé de refaire sa copie. Bon, il s'était engagé à faire ce film avec Deneuve, Arditi, Boringer. Donc. Et ça a été assez, je pense, une souffrance peut-être pour Mocky. Mais ici, il l'a fait. Et ensuite, il n'a cessé d'essayer de faire de ce film son propre film, autre chose. C'est-à-dire autre chose, et d'essayer de casser les codes, comme toujours. Donc, on voit à quel point tout son cinéma est basé là-dessus, en fait. Sur le fait d'essayer de créer un langage, son propre langage, son écriture. Pour lui, les comédiens, c'était plus que tout. Donc, lorsqu'il tourne, il lâche vraiment prise, il laisse les comédiens jouer leur rôle. Il s'en amuse très souvent. Les relations sont souvent extrêmement vivifiantes. Ça se passe toujours très bien. Et bon, il y en a qui reviennent. Hein. Tourner, ça. Alors, je ne parle pas du Mocky Circus. Tout le groupe, tout son groupe de personnages en parallèle auxquels il a donné, d'ailleurs, c'est très intéressant. Je trouve que c'est un des cinémas les plus démocratiques qui soit. Il a donné la place à des invisibles, des gens pas forcément beaux, des gens avec des faciès pas possibles, avec des problèmes de langage, des gens qui n'ont pas leur place dans le cinéma français. Et là, Mocky, non seulement il les montre, mais des fois, il fait des plans de coupe, on voit des gros plans avec des tronches patibulaires. Enfin bon, il y a ça. Et puis, il y a le travail du montage après, parce que du montage image et son, où là, il travaille sa matière, et on se retrouve avec des fois des films très étranges, très très étranges.
Il y a quelque chose qui rappelle presque Fellini avec ses gueules.
Ah oui. Non, on est d'accord. Je pense qu'il y a une référence au cinéma italien, Fellini entre autres. Il y a vécu hein, quelques années. Il connaissait le cinéma italien qu'il a toujours aimé. D'ailleurs, il a tourné avec quelques comédiens italiens. Et puis, il y a même son film Le Témoin avec Alberto Sordi, est une coproduction franco-italienne. Il aimait beaucoup le cinéma italien et les gueules dans le cinéma italien, des films de Risi, de Comencini. Et la particularité, en effet, de Mocchi, sa particularité, c'est de faire se confronter des comédiens plus célèbres avec des gueules patibulaires. Et alors, par exemple, l'un d'entre eux, c'est Jean Abeillé, qu'on aime énormément. Et Jean Abeillé se retrouve quand même à faire une scène dans « Je reviens encore à Jean Trouble ». Mais on voit Deneuve quand même qui joue une scène avec Jean Abeillé qui a son tic de langage avec un œil crevé, qui joue bizarrement, qui est complètement décalé. Et ça c'est du goût de Mocchi, vraiment d'aimer se faire se confronter des tonalités différentes de comportement, de voix, d'esthétique. Et ça, il prenait énormément de plaisir à ça. Il y avait un amour des comédiens, et les comédiens aimaient venir tourner chez Mocchi pour s'amuser. On ne leur offrait pas ça ailleurs, dans le cinéma normal, dans le vrai cinéma, enfin dans le cinéma académique français, on ne leur offrait pas ça. Le meilleur exemple, c'est probablement Michel Serrault. Bon, lui, il a eu cette chance incroyable de pouvoir tourner des films aussi bien classiques avec Sauté ou Claude Miller. Et il a eu ce désir d'accepter et de se faire plaisir lui-même d'aller tourner chez Mocchi ou faire n'importe quoi. Parce que quand même, Serrault a pu faire n'importe quoi chez Mocchi, jusqu'à baisser son pantalon quand même. D'en faire des trucs pas possibles.
La vie conjugale est un enfer. C'est ma femme qui m'a obligé à entrer dans la police. Moi, je voulais être jardinier. Mais pourquoi avez-vous obéi à votre femme? J'ai honte de l'avouer, mais elle me terrorise. Son père était commissaire de police. Elle-même, elle ne jure que par la police. Tenez, par exemple, quand je rentre le soir, il faut que je lui raconte tout. Qui j'ai arrêté, où, comment, quand. Ça me donne soif de parler.
Vous voulez un petit verre?
Ah oui, volontiers. Ça, vous êtes humain, vous, au moins.
Ce qui est intéressant, c'est cet ensemble de famille de Mocchi Circus. Quand on regarde cet ensemble de personnages sur 60 ans de cinéma, c'est quand même hallucinant.
Il y a quelque chose de remarquable aussi, c'est quand on regarde le choix de ses sujets, et ça, c'est tout au long de sa carrière, et on se demande même s'il ne se radicalise pas en vieillissant. C'est-à-dire qu'il va aborder tous les sujets et surtout les plus complexes, les plus tabous.
Alors le problème, c'est que ces films n'ont pas eu malheureusement suffisamment de reconnaissance. Pour certains d'entre eux, on est dans cette période où ces films sont de plus en plus mal distribués. Alors d'un autre côté, il peut se permettre aussi de tourner très vite pour pas cher et de traiter de sujets que personne ne veut traiter et qu'il n'aurait pas. Peut-être pas pu traiter avec des très grands comédiens, avec des films avec gros budget, etc. Donc, mais en effet, il va aller vers une sorte de radicalité, et puis surtout en s'affranchissant complètement des formes, quoi.
À la fois, on voit plus ses films en salle au début des années 90, mais il a une série à son nom quand même.
Et puis, en même temps, il écrit pas mal de bouquins, il fait beaucoup de télé. On le connaît plus comme Mocchi Gueulard, celui qui apostrophe des politiques à la télévision, qui fait rire quand même. Et en même temps, en effet, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vivre son cinéma de manière complètement marginale, presque à l'époque des bohémiens. Partant avec sa voiture, en allant sur les marchés, vendre ses livres, ses DVD, assurer une projection, un débat, enfin, faire tout un... C'est presque un travail de démarcheur. Et ça lui convient, en fait. Il a trouvé un autre moyen. Il s'intéresse aussi. Il a quand même un noyau dur de spectateurs qui viennent l'écouter, le voir et le soutenir. Il a perdu, quand même... Le grand public, hein, puisque les derniers films, c'est vraiment les années 90, c'est déjà, ça décline. Et les années 2000, là, on est vraiment dans l'underground.
Et en même temps, il y a ce que vous avez évoqué, il reprend une salle de cinéma d'arrêt d'essai, enfin une première salle, ouais. Le Brady dans les années 90. Ce qu'il aimerait, c'est faire ses films et les diffuser dans sa salle.
Il y a ça. Alors, c'est un ensemble, c'est à la fois projeter les films qu'il aime, parce qu'il est cinéphile, donc il fait des programmations de ciné-club, et il emprunte des copies à la Cinémathèque, au CNC, dans les cinémathèques, chez les collectionneurs, il présente les films, il présente ses propres films, il sort d'autres films des copains. Il y a cette sorte de structure très curieuse qui va de l'écriture à la mise en scène, à la production, à l'exploitation, il est distributeur, et jusqu'à l'exploitation avec une salle de cinéma. Donc il a vraiment, à lui seul, il arrive à concentrer, c'est un tout petit pâté à lui seul, avec sa société, qu'en plus il rachète ses films anciens. Il constitue un patrimoine parce qu'il veut, il veut rester en fait, il veut garder cette carrière, tout ce travail effectué, toutes ces démarches, tout ce pour quoi il a lutté. Il veut que ça reste dans cette société pour que ça puisse être diffusé, restauré, diffusé, remontré. Et en même temps, il n'a pas les honneurs du cinéma puisqu'il n'a jamais reçu été nominé ni reçu un seul César. Du coup, il est furax le jour où Godard va prendre à récupérer son César et il lui envoie une lettre d'ailleurs. Cinglante.
C'est-à-dire qu'il lui en veut d'avoir ce César.
Ah oui, oui, il lui en a voulu.
D'avoir accepté le César.
De l'avoir accepté comme ça, voilà. Ouais. Alors, de toute la carrière de Mocky, il y a une seule comédienne qui a eu un César pour un second rôle, c'est Dominique Lavanant dans Agent Trouble. Il aurait aimé être connu.
Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à... Parce que c'est aussi quelque chose qui s'est toujours dit, et même de manière parfois très sympathique, mais que le cinéma de Mocky est foutraque, il est bricolé, il est à moitié improvisé. Comment est-ce qu'on peut expliquer que... C'est là-dedans que se niche, au contraire, la force de Mocky.
C'est de la pédagogie, en fait. Se montrer, c'est que d'abord, pourquoi est-ce qu'on n'aurait que des films léchés, bien faits, beaux. Enfin bon, dans l'art, dans l'histoire de l'art, on a toutes sortes de formes artistiques, justement, d'écriture artistique, dans la peinture, toutes les formes d'art, dans la littérature. Le cinéma, c'est très curieux quand même. Soit on est dans le classique, soit on est expérimental, mais on peut pas être un bricoleur. On a quand même eu dans l'histoire de l'art un bricoleur de génie qui était le facteur Cheval, qui a fait cette palais complètement fou
toute sa vie,
toute sa vie avec ses petits galets. Bon, puis il y a eu il y a aussi une reconnaissance de l'art brut, de l'art des fous qui ont fabriqué des poupées, qui ont peint des tableaux. On a reconnu la peinture des fous comme étant des œuvres majeures de l'histoire de l'art. Moi, je considère que les films de Mocky, avec toutes leurs imperfections, sont vraiment des œuvres de valeur et qu'il faut les juger comme ça et qu'elles ont leur place dans l'écriture du cinéma, dans un style et dans un parcours important.
Moteur.
On ferme la porte, s'il te plaît, là.
Attention, quel bordel. Alors. Moteur.
Ça va être beau. Ça tourne.
Ah non.
171, quatrième.
Allez-y.
C'était les podcasts de la Cinémathèque française.